France Inter.
Vous l'avez remarqué, aujourd'hui, il flotte comme un parfum de disco sur l'antenne d'Inter. Disco, D-I-S-C-O, 5 lettres qui concentrent autant d'énergie que de paillettes, de danse et de sueur, de plaisir, mais aussi de lutte. Let's groove, Night Fever, Celebration, I am what I am, autant de formules, de mantras que d'appels à se lever et danser. On l'a aimé, adoré, puis détesté, on l'a dit mort, il est revenu partout, chez Madonna, Daft Punk ou Juliette Armanet. Il fait l'objet d'une grande exposition en forme de club géant à la Philharmonie de Paris. Disco, I'm coming out, de New York à Philadelphie, San Francisco, Paris. La fièvre disco n'a épargné personne. Irrésistible ascension, grandeur et décadence, disco c'est plus que ça, un espace d'utopie et de révolution. Aussi pour ce soir, ce sera « Et je remets le disco ». Pour ouvrir cette émission spéciale disco, un genre apparu au début des années 70 aux États-Unis, accompagnant tout un mouvement de fierté et d'affirmation des Noirs américains en premier lieu, Black is Beautiful. Les labels comme Motown, Philadelphia International Records ou TK Disco vont accompagner cette célébration. Et les DJ, comme les musiciens, vont mélanger soul, funk, gospel, percussion latine et donner naissance à ce qu'on va appeler le disco. Jimmy Bohorn et Spank, c'est c'est ce qu'on entend là en fanfare. C'est un titre qu'on retrouve dans la bande-son de l'expo Disco à la Philharmonie de Paris, bande-son que vous avez organisée. Dimitri From Paris, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes né de parents grecs à Istanbul et vous êtes devenu très jeune DJ, remixeur, musicien et animateur radio. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez fait vos débuts dans ce bâtiment d'ailleurs. Parmi vos coups d'éclat, le titre Sacré Français en 97, un set au manoir Playboy qui est devenu un album culte et des remixes de Chic. Rien que ça, félicitations Dimitri.
Merci.
À vos côtés, en face de vous, un autre DJ pratiquait ce métier avant même que l'expression soit devenue courante. Guy Cuevas, bonsoir Guy.
Bonsoir Mathieu, bonsoir Dimitri.
Vous êtes né vous à Cuba et devenu disque jockey à Paris au Nuage, au 7 et puis au Palace. Vous avez fait partie de ceux qui ont fait la renommée mondiale du Palace et de ses années folles. Alors vous n'êtes pas de la même génération, vous vous connaissiez.
Comment ça?
Mais c'est la première fois... C'est la première fois qu'on vous réunit, que vous vous rencontrez ici.
Alors, moi, je connais Guy Cuevas et son histoire depuis longtemps. J'ai fréquenté un de ses disciples, d'ailleurs, avec qui j'ai travaillé, Michel Gobert, qui
Absolument.
Travaille dans la mode. Mais j'étais trop jeune à l'époque, à la grande époque du 7 et du Palace. Et quand j'ai commencé à pouvoir aller au Palace à partir de mes 18 ans, Guy Cuevas n'y était déjà plus comme DJ. Ouais. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir de le rencontrer pour la première fois aujourd'hui.
Bon,
d'entendre encore de ces histoires.
Alors vous avez choisi chacun quelques morceaux pour illustrer ce qui vous est cher dans ce courant disco et au-delà. Vous nous les ferez écouter, vous les commenterez. On fera une visite en reportage dans l'exposition avec Jean-Yves Leloup. On entendra quelques archives pour se plonger dans l'époque. Mais d'abord un mot sur cette ouverture, ce mot spank. Spank, c'est la fessée. C'est bien pour commencer une émission disco, c'est à cet endroit que se concentre.
Très à propos.
Bah, c'est ça. C'est là que ça se passe, non?
Oui.
Alors, moi, j'aimerais pas faire des résumés, mais le disco, il y a un aspect hédoniste, et donc spank, la fessée, en traduction, donc c'est au niveau des fesses que ça se passe.
Mais il y a. Dans les palaces, beaucoup.
Voilà. Mais il y a cette dimension de s'élever et de sortir de soi dans le disco. Mm. Et les deux points sont un peu différents, parce que s'élever, c'est s'élever de sa situation, donc aller vers un endroit meilleur. Donc, oui. Quand on est opprimé et mal vu, ou pas vu du tout d'ailleurs, c'est se montrer, avoir une visibilité. Et puis le faire. Dans une forme joyeuse et gaie, sans faire de jeu de mots, plutôt que de rabâcher, d'être dans un truc revanchard et revendicatif. Donc c'est vraiment... et ça se voit pas. C'est-à-dire le disco est une musique subversive, un peu, mais qui ne se présente pas comme telle. Qui n'a pas l'air de l'être, et ça fonctionne d'autant mieux.
Alors on parle français-anglais, je précise que le versant français du disco, ça fera l'objet de l'émission suivante tout à l'heure, Laurent Goumar côté club, sera lui aussi tout en boule à facettes.
What was great about the 70s is that
ce qui était génial dans les années 70, et particulièrement à New York, c'est que tout le monde voulait se mélanger, et ce mix avait lieu dans les discos. Dans les clubs disco, à l'origine, on jouait surtout une musique noire, celle qui passait surtout dans les bars gays. Et ça s'est étendu, c'est devenu de plus en plus gros, jusqu'au studio 54, qui d'une certaine façon était le plus grand des bars gays. Mais ce n'était plus gay seulement, c'était un mélange d'hétéros, de gays, de gens du centre-ville, d'autres de banlieue, des riches, des vieux et très jeunes. Tout le monde y allait. Ces années 70 étaient une décennie très démocratique.
Social barriers, sexual barriers, racial barriers, really.
La plupart des barrières sociales, sexuelles et raciales disparaissaient. La révolution sexuelle, la pilule, tout ça était avant le sida. Les femmes étaient libérées et on n'avait pas peur des maladies sexuellement transmissibles. Les drogues étaient nouvelles, la cocaïne était une nouveauté. On ne savait pas ce qu'elle pouvait faire, à quel point elle était addictive.
Et donc, je dis toujours que les 70s étaient un peu comme le.
Je dirais que les années 70 étaient comme l'âge de l'innocence, d'une décadence culturelle dans laquelle on est tombé depuis.
New York is red hot. New York is red hot.
New York is red hot. Vous écoutiez à l'instant Bob Colacello, ancien rédacteur en chef du magazine Interview, proche de Andy Warhol, qui nous racontait ses années 70 et ce qu'a représenté notamment le studio 54 à New York. Vous pensez que vous avez vécu un âge d'innocence, Guy Cuevas, comme il le racontait ici, Bob Colacello?
Ah, complètement, oui, d'innocence, d'insouciance complète, il n'y avait pas de problème majeur, il n'y avait pas de sida encore, il n'y avait pas de terrorisme. Il n'y avait pas trop de problèmes d'argent. Puis c'était un endroit très hype, très hip, le 54, qui était ouvert 3 mois avant nous. que le palace.
Et vous y avez été, vous êtes allé le visiter.
Oui, oui, déjà j'avais été dans la journée pour un défilé de Claude Montana, donc je l'ai vu à toute heure la journée, de 50 dates jusqu'à pas d'heure. Et puis à tous les étages, comme au Galerie Lafayette, il s'est passé des choses différentes.
Il n'y avait pas que de la musique alors ?
Non, non, il y avait des plateaux aussi qui nous servaient des choses très insouciantes également.
Dimitri From Paris, qui étaient les DJ du Studio 54 ? Quelle musique on y jouait ? Même si vous étiez encore trop jeune pour y aller.
Bah, c'est difficile d'en parler pour quelqu'un qui n'y a pas été. Bon, après, c'est un peu documenté.
Ah, tu as pas été ?
Non, j'ai jamais connu le studio 54. Et donc, je connais qu'un des DJ phares était Richie Kezor, qu'on connaît très peu, et on en cite un autre. Mais le vrai DJ résident, c'est un monsieur qui s'appelle Richie Kezor. Après, la musique qu'on y jouait, c'était un peu le haut du panier, les choses les plus connues. Ça n'a jamais été un club axé sur la musique, axé sur, entre guillemets, un certain underground. C'était beaucoup plus jet set, c'était plus un club lifestyle comme on dit aujourd'hui.
D'accord, c'était les looks.
C'était pour s'amuser. La musique était un peu en arrière-plan. Il y a eu d'autres clubs à New York qui étaient plus axés musique, on va dire.
Oui.
Mais c'est comme le Paradise Garage,
absolument.
Qui sont aussi documentés comme le Loft, qui n'est pas au sens propre un club, c'était une soirée privée dans
c'était
un
appartement.
C'était un appartement.
Les Dalmatiens à l'entrée.
Voilà, mais ça, le principe du Loft, c'est la musique et rien d'autre.
Ouais.
Donc, il y avait juste des ballons en décoration.
Absolument, et un des credos du créateur du Loft, David Mancuso, qui nous a quittés il y a une dizaine d'années, c'était que le DJ ne doit pas prendre le dessus sur la musique. Par conséquent, il s'interdisait lui-même d'enchaîner les disques, qui était un peu le béaba de tout DJ.
Il se méfiait du pouvoir du DJ, en fait.
Ben, c'est pas qu'il se méfiait, mais il dit, moi, je ne veux pas prendre le devant sur la musique est plus forte que moi, je choisis...
Accompagner.
Voilà, exactement, il accompagne, et il accompagnait le mieux possible, puisqu'il mettait un point d'honneur à avoir une reproduction, un son de très très haute fidélité.
Lui, il avait des enceintes Clipshore.
Voilà, ça aussi, aujourd'hui, c'est très documenté. On a des plans, comment refaire, etc. Donc, c'était important pour lui de se mettre en second plan, alors que dans d'autres clubs, et notamment le Studio 54, c'était un peu la fête d'abord, puis la musique est là pour... c'est un peu le fond sonore, on va dire.
Et alors, le Palace, c'était un peu des deux, j'ai l'impression, non, Guy Cuevas ?
Ah, complètement, oui. Donc, tout ça, ça nous inspirait pour nous dire... Qu'est-ce qu'on avait envie, nous, de faire ? L'arrivée, c'était une arrivée aux Oscars d'Hollywood. Il y avait des barrières énormes. On s'interdisait d'arriver si on n'avait pas une limousine. Donc déjà là, c'était, tu vois, c'était autre chose. Tu me diras que le palace, c'était rue du Faubourg-Montmartre, il y avait les crêpes, les frites autour, les odeurs populaires, c'était autre chose complètement.
Eh bien, vous parliez de Diana Ross, justement. Oui. Sont présentés dans cette émission les DJ, les danseurs, les tables de mixage, les vêtements, les néons. Il y a même des messages « We are with you in the night ». Il y a des cartes de club, puisqu'avant, là, vous le disiez, avant les boîtes de nuit, il y avait beaucoup de clubs privés. Et bien sûr, il y a des portraits de chanteuses, de musiciens. Et les divas tiennent une part importante. Gwen McRae, Gloria Gaynor, La Belle. Et il y en a une qui revient à plusieurs reprises, on l'entend là. Elle est dans un tableau de Warhol sur des pochettes de disques. C'est Diana Ross. C'est votre premier choix de disque, Guy Cuevas.
Ah, c'est un truc génial, non ? Génial ! Tout ça, là.
On va l'écouter, on parlera du message après.
Le LFQ, comme je dis dans mon livre. Le LFQ, les morceaux qui font danser. This time around, I am gonna
Il y en a un qui tape sur la table comme s'il était en train de passer le disque au Palace.
Ah pardon, ça s'entendait.
Geek Wave, mais non, pas de problème, bien sûr, c'est vivant.
Desolated.
I'm coming out. Elle parle de quoi cette chanson au fond, Geek Wave?
Ah ben, je crois que c'est un jeu de mots déjà à l'époque. D'où est tirée la fameuse phrase faire son coming out ici. J'avais pas le temps d'écouter les paroles, ni rien. La musique me plaisait, les voix, j'ai balancé, tu vois. J'avais pas le temps de tout écouter non plus. Hein. On écoutait trop de musique par jour. J'étais 300 disques par jour, à peu près.
Et Diana Ross, vous avez fait quelque chose avec elle pendant une boîte de nuit. Vous l'avez fait chanter pendant que vous passiez sa musique.
C'était au set. Parce que je savais que c'était une de mes chanteuses préférées. Et que je la passais beaucoup, déjà, oui. Et j'étais en train de passer son Love Hangover, où ça commence très lentement. Alors, j'ai enlevé les lumières complètement. C'était dans le noir, presque, pour balancer, tu vois, l'intro, percussion qu'on vient d'écouter. Elle était en train de dîner au restaurant du set. Elle est descendue, et puis une star absolue, elle a commencé à mimer. Elle s'est regardée dans les miroirs noirs. Elle a commencé à danser. Tout le monde s'est arrêté de danser autour d'elle. Elle a fait un show. Elle a fait un show complet. Donc évidemment, Fabrice était fou de joie.
Vous parlez de Fabrice Aimer, qui sera le créateur du Palace des années plus tard.
Et il est descendu, il a vu tout ça, et il a des champagnes pour tout le monde.
I'm Coming Out, Diana Ross, écrit, joué et produit par Neil Rogers et Bernard Edwards du groupe Chic. Oui. Ça, c'était en 80. On va parler de Neil Rogers et de Chic, Dimitri, bien sûr. Mais d'abord, je vous emmène en visite dans cette exposition qui est ouverte jusqu'au 17 août avec le commissaire Jean-Yves Leloup qui nous conduit dans cette expo qui est agencée vraiment comme un club avec les lumières, les néons, les alcôves, salle de projection, des tapis ondulés, il y a un canapé en forme de lèvres dorées, un studio reconstitué. Mais oui, il y a tout ça, des affiches, des photos, des costumes et du son partout. Une exposition sous le signe décliné, modifié, transformé de la boule à facettes dans tous ses états.
Bonjour et bienvenue dans l'expo Disco, I'm Coming Out. Nous sommes à la Philharmonie de Paris. Alors je vous propose de me suivre et de rentrer, de découvrir la première salle de l'exposition qui est une œuvre d'art contemporain. On a voulu accueillir le public dans une sorte d'espace avec une artiste qui, comme pas mal d'autres dans l'expo, revisite la forme de la boule à facettes. Et ce que vous voyez au-dessus de nous, c'est la représentation d'une molécule d'éther en boule à facettes. Donc cette substance, enivrante, qui peut vous faire perdre les sens, nous donne quelques idées sur ce monde d'évanescence, de perte d'essence, d'enivrement, de libération, aussi un peu d'intoxication, qu'ont été les années 70 et le début des années 80 au sein de cette scène disco.
Et si on avance, je vois les premiers mots là, let's groove. Alors là, il y a un contraste étonnant entre ce néon qui est là, que vous allez nous décrire, je vois les mots Paradise Garage, c'est très coloré, très joyeux. Et puis les photos à côté qui sont d'une dureté.
Oui, ces photos très dures, en fait, ce sont quatre images de Meryl Meisler, qui est une photographe new-yorkaise qui a vécu pleinement cette époque. Et là, elle a notamment réalisé des photos du quartier de Bushwick. Elle était prof d'art plastique à Bushwick auprès d'adolescents, dans un quartier qui était tout aussi désolé que le Bronx ou Harlem à l'époque, assez proche de l'ambiance du Bronx. Et on rappelle dès le début de l'expo que le contexte d'émergence de la disco à New York est un contexte urbain particulièrement difficile, dégradé, très loin du Manhattan ou de Brooklyn que l'on connaît aujourd'hui. La ville traverse vraiment une période très difficile avec parfois des grèves, des policiers, des pompiers, un gigantesque blackout qui occasionne des émeutes et des pillages. La ville est déclarée en banqueroute à un moment, elle est sauvée in extremis par la présidence des États-Unis. Et au fond, la musique disco agit comme une sorte de refuge hédoniste face aux difficultés du quotidien. Et c'est à la fois une ville assez pauvre à l'époque et hyper créative, puisqu'elle accueille aussi énormément d'artistes.
Alors attendez, si on s'avance, Jean-Yves Leloup, on va progresser parce qu'il y a un endroit qui vous était cher. Voilà, on tourne à gauche. Oui. Alors là, je vois les costumes de Divine, et là, ce sont d'autres costumes XXL incroyables.
Oui, ce sont deux très beaux costumes de Sylvester, donc ce grand chanteur, ou ce cette grande diva. On peut dire il ou elle, c'est selon son inspiration et les moments et la manière dont il ou elle s'habillait. Sylvester, c'est une grande figure de San Francisco à l'origine de la disco, qui a chanté des tubes comme You Make Me Feel Mighty Real, par exemple, qui a été aussi un militant de la cause LGBT et aussi une des premières victimes du sida. Cette expo est vraiment peuplée de fantômes et de disparus qui ont pour la plupart beaucoup disparu au début des années 80 pendant les premiers ravages de l'épidémie de VIH aux États-Unis. Mais reste qu'on a deux très beaux costumes, un costume on va dire plutôt masculin, bien sûr à paillettes aux couleurs disons rouge et vermillon avec une touche d'argenté, et puis un autre costume on va dire plus féminin, rempli de petites perles de couleur violette ou pourpre, avec une coiffe assez délirante qui évoque un petit peu les années 1930. Voilà deux des costumes de Sylvester. Ce qui est assez beau, c'est qu'ils nous ont été prêtés par une association pour la préservation de la mémoire LGBT à San Francisco. Et on peut vraiment remercier ces associations-là parce qu'ils nous ont vraiment beaucoup aidés en nous prêtant des documents, des œuvres, des costumes, ce qu'on appelle des mémorabilia, aussi des objets qui raconte une histoire. Ça a été beaucoup plus difficile pour nous parfois d'essayer de rentrer en contact avec les anciennes superstars du disco, comme je sais pas Diana Ross.
Bah oui, Diana Ross, elle est en tournée, donc elle a pas le temps, Jean-Yves Leloup.
Mais j'espère, elle va jouer en juillet à Paris, donc on va essayer de la faire venir à l'exposition pour lui présenter l'expo.
Et en plus, je l'ai vue Diana Ross peinte par Andy Warhol.
Oui, tout à fait, oui, elle est peinte par Andy Warhol. Andy Warhol est un artiste très récurrent de cette exposition parce que c'était une figure de la nuit new-yorkaise qu'il a beaucoup documentée, peinte.
On va continuer la promenade. Et puis, vous me parlerez tout à l'heure, il y a une demolition party quelque part ?
Non, une demolition night. Et c'est pas du tout, c'est pas vraiment une fête, c'est une sorte d'émeute. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fond, quand on veut circonscrire l'époque du disco, elle commence avec une émeute et elle termine avec une émeute. Mais qui sont deux émeutes très différentes avec des populations très différentes.
Le début à Stonewall et la fin avec la demolition party.
C'est ça, demolition night.
Demolition night. Allez, à tout à l'heure. Guy Cuevas, on parlait à l'instant des tenues de soirée de Sylvester. Vous étiez habillé comment ? Il faut que vous nous décriviez parce que...
Ah ben, toutes sortes de folies, des choses qui venaient de n'importe où, du plus, de tout. Mais c'est... Bon, j'étais déjà...
Je vous ai jamais vu avec des pattes d'eff, hein ?
Je suis trop carré d'épaule, alors si les jambes sont trop larges, ça fait
voilà,
vraiment...
Il est trop balèze.
Oui, mais j'étais déjà l'ami intime de Kenzo qui me faisait des chemises énormes. Je l'avais parce que j'étais énorme, j'étais Moby Dick, une baleine à ce moment-là. Donc des chemises, des smoking, mais des chemises, j'ai là-bas.
Et toujours le crâne rasé et avec de très beaux chapeaux. Hein. Dimitri, vous me disiez que vous étiez jaloux d'un de ses fraises.
Ah oui, moi je suis jaloux des chapeaux de Guy Cuevas. Je suis un homme à chapeau et je vois que monsieur Cuevas a beaucoup, beaucoup de goût.
Ah,
et notamment, il porte très bien le fez, comme peu de personnes savent le faire.
J'adore ça, le fez, oui.
Dimitri, je reste un instant dans cette exposition que vous avez vue, puisque vous en avez signé la bande-son avec un très beau mix. Il y a un endroit qui, je pense, doit vous toucher tout particulièrement, c'est celui qui est consacré à Philadelphie, à la reconstitution presque d'un studio de Sal Soul Records, avec notamment la vidéo du batteur Earl Young. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce axe Philly Sound qui est très important dans l'histoire du disco ?
Alors je crois que tout le monde est d'accord aujourd'hui dans les amateurs de musique pour donner à Philadelphie, donc la ville de Philadelphie aux États-Unis sur la côte est, proche de New York, pour lui donner la paternité du son disco. Pourquoi ? Parce que avant le disco, la musique de danse, c'était de la musique afro-américaine. Ça venait beaucoup de la Motown, donc de la ville de Détroit. Et c'était principalement dirigé vers le marché des Noirs américains aussi. Donc c'était ségrégué. La musique des Noirs pour les Noirs, la musique des Blancs pour les Blancs. Et ça ne se mélangeait pas beaucoup. Et donc les budgets n'étaient pas aussi conséquents que pour la musique des Blancs. Et les gens de Philadelphie... Il y avait comme ça un collectif de producteurs qui avait envie de faire mieux que Motown, qui était aussi noir-américain.
Et ils sont allés de Kenny Gamble et Leon Huff.
Absolument, Gamble et Huff qui ont composé après beaucoup, beaucoup de tubes. Mais à l'époque, c'était des jeunes compositeurs, musiciens. Ils se sont dit, on va faire mieux que Motown et on va mettre des violons. On va mettre de l'argent. Parce que les violons, ça coûte cher. Les violons, c'est pas une personne, c'est minimum 10 ou 15. Donc, c'est 15 personnes à payer, à faire entrer dans un studio assez grand pour les contenir, etc. Donc, c'est des budgets plus conséquents. Et c'était relativement aussi la facilité, la mixité de la ville de Philadelphie qui permettait ça, parce qu'il y avait beaucoup de musiciens de cultures différentes. Il y avait d'un côté les Afro-Américains, puis de l'autre côté, il y avait les Italo-Américains, la communauté juive qui avait, eux, une culture plus européenne de la musique classique et qui étaient plus les gens qui jouaient dans les orchestres avec des cordes et des cuivres. Et ils se sont mélangés ensemble, ce qui a donné un son assez unique, c'est-à-dire que le disco est la seule musique dansante où il y a le côté polyrythmique qui vient des origines africaines, et à côté le côté symphonique et classique qui lui vient plus d'Europe centrale. Mmh. Et ensemble, ça a donné le son unique du disco, et c'est à Philadelphie que cette osmose a été la plus caractéristique. Et
Barry White faisait déjà ça.
Absolument. Enfin,
mais dans la rythmique, il y a aussi le rôle du batteur qui est énorme. Et ce Earl Young, dont on voit une vidéo dans l'expo, elle est passionnante parce qu'il explique vraiment il y a le pied, hein, le disco, c'est le pied disco qui tape sur tous les temps. Et puis le jeu avec le charleston, un peu en contre-temps. Et...
Ouais. Tout à fait. Earl Young, on peut lui donner aussi la paternité du rythme disco. Et ça s'est fait un peu de manière tout à fait organique, comme beaucoup de choses. Et c'est devenu après un des codes qu'on retrouve encore aujourd'hui dans l'électro ou dans la house, le pied tous les temps avec le charlet qui joue en contre-temps. Et je pense que c'est l'ensemble de ces la convergence de toutes ces cultures qui a fait que le disco a ce son.
Alors ça, c'est un de vos choix, Dimitri From Paris. MFSB, Love is the Message. C'est quoi déjà cet acronyme? Mothers, Fathers, Sisters and Brothers.
Voilà, il y a une autre. Voilà, il y a une autre lecture qui est possible. On ne sait jamais parce que chacun se réclame de l'une ou de l'autre. En tous les cas, c'est un collectif de musiciens donc de Philadelphie qui travaille sous la houlette de Gamble et Huff et qui ont enregistré ce morceau, Love is the Message, qui est devenu l'hymne du loft de David Mancuso et aussi du voguing après.
Et de Dallas, écoutez ça. Voilà, et ça c'est donc bien antérieur à la série, puisque la série c'était les années 80, et c'était à Philadelphie la musique. Alors Dimitri From Paris, si on jouait la version entière, parce que ça, c'est la version de Tom Moulton.
Voilà.
Et c'est particulier parce que c'est pas un DJ, mais en même temps, c'est un peu le père du mix.
C'est le père de tous les remixeurs, c'est mon père spirituel, et celui de tous les autres remixeurs aussi. C'est quelqu'un qui est arrivé dans les clubs, qui aimait cette musique afro-américaine et qui allait l'écouter dans les clubs et qui se... plaignait entre guillemets que les morceaux étaient trop courts et que
quand trois minutes, voilà, c'est pas assez long.
Quand on arrivait à entrer entre guillemets, à se décider à aller sur la piste, à rentrer dans le groove, le morceau se terminait, il fallait en mettre un autre. On s'est dit mais le morceau se termine juste au moment, un peu comme maintenant, ça commence à démarrer et on parle. On s'est dit mais il faudrait laisser le morceau aller plus longtemps. Comment faire? Donc il est rentré chez lui un peu frustré et il s'est mis à bricoler avec un magnéto à bande qui était quelque chose de relativement normal à l'époque, comme un lecteur de cassette qu'on pouvait avoir dans les années 80. Il s'est mis à bricoler ce qu'on appelle des edits, c'est-à-dire des montages. Il a rallongé les morceaux, il a rallongé les parties des morceaux qui étaient plus dansantes, il a enlevé celles qui étaient un peu pas super efficaces, et il a apporté la cassette au club en disant « Tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et au bout d'un certain temps, ils ont diffusé la cassette, et puis ils se sont rendus compte que ça rendait la piste complètement folle. Il lui dit hey, « Quand est-ce que tu nous en fais une autre ?» etc. Il est devenu DJ sans lettres, puisqu'il n'a jamais été derrière des platines, il n'a jamais mixé en live quoi que ce soit, mais il est devenu remixeur de fait. Et fort de ce succès, il y a d'autres labels qui l'ont appelé en disant ce que tu as fait pour ce club, est-ce que tu peux aller directement au studio et le faire avant que le disque ne sorte. Donc il a fait de fait le premier remix, puisqu'il est arrivé dans le studio au moment de la fabrication, de l'enregistrement même du disque, du mixage du disque. Et ça a donné naissance à la culture du remix qui aujourd'hui est totalement acquise. Il y a des 150 remix de tout et de rien.
Oui, on l'entend même, par exemple, il retravaillait les morceaux des Tramps, Disco Inferno, qui est un énorme tube.
Bien sûr.
Il travaille dessus, mais à l'origine, c'est ça qui est incroyable, c'est vraiment un nouvel acteur qui apparaît dans ce processus de création musicale.
Tout à fait, ça n'a jamais existé avant, quelqu'un qui arrive après la création du morceau et qui apporte une lecture différente, adaptée dans le cadre de Tom Moulton aux boîtes de nuit.
Ça, c'est un autre de vos choix, Dimitri. Inner Life. Ain't No Mountain High Enough. On continue sur ce principe de soul music qui va dériver vers le disco. Cette fois-ci, c'est un mix de Larry Levan, un remix de Larry Levan. On est en 1981, c'est ça ?
Ouais, à peu près, ouais.
Et avec une voix extraordinaire qu'on va entendre.
C'est une voix qui, à l'époque, était un peu débutante et qui, après, a touché des tas de d'autres musiques, pas seulement dans le disco, Jocelyn Brown.
Voix extraordinaire de Jocelyn Brown, ce morceau Ain't No Mountain High Enough, le remix de Larry Levan, Dimitri from Paris. Larry Levan, c'est encore un acteur vraiment important.
Oui, je pense que au niveau mondial, c'est la première fois qu'on a commencé à parler mondialement d'un DJ. En fait, avant, on connaissait les clubs, on savait pas qui était, qui faisait quoi dedans, puis on s'y intéressait juste pas. Et Larry Levan, on a commencé à voir son nom dans des autres pays parce qu'il signait des remixes. Mais même moi, quand j'achetais un remix de Larry Levan, je n'imaginais pas que c'était DJ. Et puis très rapidement, on dit « Ah oui, mais il y a ce club à New York dont tout le monde parle, et Larry Levan, on est le DJ, et puis il fait des trucs incroyables, le sound system est phénoménal, etc. » Donc c'est devenu une espèce de légende. Je n'ai pas malheureusement moins eu la chance d'y aller parce que ça a fermé littéralement 2 mois avant que j'aille à New York pour la première fois.
Et puis Larry Levan est mort jeune.
Larry Levan a été une des premières victimes du sida, oui, bien sûr. Donc, mais voilà, il y a ce mythe autour de Larry Levan qui créait des ambiances, un peu comme ce que pouvait faire Guy Cuevas au Palace. C'est exactement le même principe.
Alors,
c'est des mises en scène, en fait.
Exactement.
C'est absolument
du théâtre. C'est du théâtre. Voilà, c'est du théâtre.
C'est la clé.
Parce qu'on n'entendait pas que du disco au Palace. Hein. Vous passiez bien sûr Donna Summer, Sylvester, mais aussi Nina Hagen, de l'opéra, du reggae, du cabaret. Mais le disco, Guy Cuevas, ça restait la musique la plus fédératrice parce que c'était une grosse boîte
absolument.
De nuit.
Absolument. Il fallait qu'il reste sur la piste. Bon, déjà, c'était une... il y avait tellement de monde. Il n'y avait pas de siège. Hein. Il n'y avait pas un meuble. C'était serré comme des sardines. Donc, il ne pouvait que danser. Déjà, si les voisins dansaient très bien, ça te faisait bouger toi-même. Mais effectivement, oui, c'est la plus fédératrice. Oui,
plus efficace
celle,
aussi.
Absolument, celle qui donne envie, tu vois, de rester, de, je sais pas, qui donne le sourire. Thierry Ardisson avait une très bonne formule. Il disait que personne n'avait réussi à se suicider sur la musique disco.
C'est pas mal.
C'est très vrai. C'est très vrai. C'est...
Alors, pour avoir une idée, Guy Cuevas, de ce que vous proposiez, vous m'avez dit, ah ben tiens, on pourrait faire une sorte de steak haché, c'est le genre de choses que je faisais.
Oui.
Donc on va
en
voir,
couteau.
sur une idée de Guy Cuevas, le genre d'assemblage qu'on pouvait entendre au Palace.
Mister, can I talk to you for a minute?
Got a cigarette for me, Mister?
Hey, Mister, do you speak Spanish?
Hey, Tiger, you wanna dance? Little dance won't hurt you.
Come here, cowboy, I wanna tell you something.
Moshi, moshi, kaga, death,
baby. Ooh, you suck, so.
Let's have some fun.
When you're laying so close to me, there's no place I'd rather you be than with me. Yeah.
Oh. Do you wanna have fun? Do you wanna have fun?
Have some fun.
Vous adoriez faire ce genre de jeu-là, Guy Cuevas?
Ça, c'est l'assistant qui me trouvait. Tu vois, l'idée me venait tout d'un coup, comme ça, le film, Michel MacLaine et tout. On me le trouvait. J'avais 3 platines quand même, hein, 3 platines, plus le truc à cassette en dessous. Donc, il m'était facile de faire des montages. Mais là, c'est très réussi. Bravo. C'est bien.
Voilà, c'est Jérôme Chélius pour la réalisation. Donc, on a reconnu I Feel Love, Donna Summer, Giorgio Moroder. Mais la comédie musicale, c'est quoi? Parce que je suis allé voir les images, moi je ne la connaissais pas, cette comédie musicale, avec Shirley MacLaine, 69,
Sweet Charity.
Sweet Charity. Mmh. Mais incroyable. Il y a un ballroom avec des travestis. Enfin, pour 69, ça y va, quoi.
Ah ben, comme certaines vedettes ont fait après, Cyndi Lauper, qui a chanté avec plein de travelots derrière. Tout ça dans la culture, hein, aux États-Unis, à New York, d'intégrer comme actuellement le film Emilia Pérez. D'intégrer les transsexuels, etc. etc.
Guy Cuevas, si vous le permettez, je voudrais lire un extrait de votre livre à propos de l'ouverture du Palace.
Merci.
Le 1er mars 78, qui est bien raconté donc, dans votre livre « Avant que la nuit ne m'emporte ».
Je ne veux pas pleurer.
Non, j'espère que non. Alors je lis. « Je suis aveugle maintenant, je ne peux plus dresser la liste et on s'en fout. No listing dans l'île en transe, mais nous y étions tous le 1er mars 78. » À un moment X, depuis ma cabine, j'ai senti la salle dont je ne distinguais que des crânes. J'étais un peu Dieu et j'ai reçu un choc, une révélation physique, comme bandé sans son corps. La jauge est à 1000, 1200, ils sont 2000 là-dedans, certains diront 3000. Tous, je les perçois, chaque disque les change, ils répondent, je balance, ils réagissent. La mer m'obéit, j'obéis à sa houle, petit bouchon in the mood. Aimons-nous enfin les uns les autres, delirio miracoloso. Sobre comme un chameau pourtant, j'avais pris quoi, 4 ou 7 coupettes, j'ai pas compté. À la fin, nous n'étions plus les mêmes qu'au commencement. De l'éphémère nous est restée une transcendance, nous l'avons fait. En un tour de cadran, nous avons tourné une page, changé d'époque.
Sister Sledge, Lost in Music, et ça c'est votre remix, Dimitri from Paris. On peut trouver dans l'expo... Ah oui, merci. C'est bien.
On peut trouver... déjà bien au départ, pardon.
C'est vrai. Dans l'exposition, à la Philharmonie, on peut trouver une bande d'écoute où on peut écouter piste par piste Freak Out de Chic. Et Chic, c'est eux qui ont produit ce morceau-là. Mmh. Et ça ressemble un peu à ce que vous avez fait, en fait, avec ces remixes.
Oui.
Vous avez eu accès à toutes les pistes.
Oui, c'est ça. C'est un concept un peu difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas dans la musique et pas dans la technique. Mais en tout cas, quand on enregistre un morceau en studio, on enregistre chaque intervenant séparément. Donc, on va enregistrer d'abord le batteur, ensuite le bassiste, le chanteur, les choristes, les violons, etc. Ils se retrouvent ce qu'on appelle des pistes séparées. Donc on peut les isoler les uns des autres. Et à la Philharmonie, ils ont créé un petit dispositif interactif qui permet d'entendre le morceau le Freak de Chic, qui est un morceau plutôt assez connu, et qui permet d'isoler comme si on était en studio. Donc on met son petit casque et puis il y a un petit
une interface
interactive tactile où on peut, en appuyant sur des boutons, isoler les violons. On peut écouter les violons tout seul, et c'est assez magique parce que quand c'est tout mixé ensemble, on connaît la chanson, etc. Mais quand on commence à isoler les choses, ça prend une vie différente. Et donc, ça permet de se rendre compte comment travaillent les remixeurs, les DJ, etc. Ils remettent en scène en partant des pistes originales.
Dimitri from Paris et Guy Cuevas, je parlais en ouverture de grandeur et décadence du disco, parce que...
C'est nous la grandeur, la
ma grandeur, on l'a entendu, mais décadence... Non, mais il faut dire que tout a tellement bien marché que le disco a tout envahi, dans la pub, dans les vêtements,
écraser,
les films, voilà, et ça a créé une overdose chez certains, et ça a pu susciter toutes sortes de réactions plus ou moins bienveillantes, une disco-overdose. Je vous propose retour dans l'exposition disco à la Philharmonie de Paris, qui vient d'ouvrir ses portes de Pantin. Ça se poursuit jusqu'au mois d'août, vous avez le temps d'y aller. Vers la fin du parcours, quand on fait la visite de ce club disco géant, il y a une vidéo et un très grand tableau à côté qui retiennent l'attention. C'est une grande peinture prêtée par le Musée des Beaux-Arts de Houston, une toile immense du jeune peintre Hernán Bass, qui évoque un épisode très précis qui a eu lieu le 12 juillet 79 dans un stade. C'est la Demolition Night. Et on va retrouver Jean-Yves Leloup, le commissaire d'exposition.
Un événement tristement célèbre qui est cette Demolition Night. C'est le titre de cet événement qui se voulait un peu potache à l'origine, qui avait été organisé à la mi-temps d'un match de baseball, donc à Chicago, par un animateur radio rock qui en avait marre du disco. Parce qu'en 79, parce que cet événement se passe en 79, la disco est partout aux États-Unis, mais aussi en Europe, dans la mode, le marketing, le cinéma, les vêtements, la publicité. Il y a même aussi plein de très mauvais disques qui sortent. C'est une pop culture qui est devenue tellement grand public qu'elle déclenche aussi des réactions épidermiques, mais parfois assez violentes aussi. Il y a une campagne qui est née quelques mois plus tôt qui s'appelle Disco Sucks, le disco ça craint, le disco c'est nul, mais avec vraiment ce verbe qui en donne une image beaucoup plus vulgaire et plus sexualisée aussi, et un peu homophobe, il faut le dire aussi. Et cette campagne, en fait, qui se joue à coups de soirées, d'autocollants, de déclarations à la radio, connaît son pic, son acmé avec cette sorte de performance où cet animateur de radio, Steve Dahl, avait invité les gens à ce stade de baseball, et on leur avait dit, eh bien, si vous amenez un disque qu'on va faire exploser, si vous amenez un disque, vous aurez une entrée à tarif réduit et vous pourrez voir le match et célébrer la mort du disco.
Nous sommes ici pour la plus grande anti-disco demolition du monde ce soir. Pouvez-vous s'il vous plaît accueillir le supreme commander, Steve Dahl ?
Environ 10 000 jeunes gens qui ont envahi le stade et la police a dû intervenir. Et au fond, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait exploser, mais surtout on a fait brûler des disques. Des disques disco, mais aussi des disques de musique noire. C'est ça dont on s'est aperçu, c'est que tous ces jeunes gens avaient apporté, qui étaient plutôt fans de rock, et qui opposaient l'authenticité du rock aux artifices du disco, ou à la féminité du disco, ou à la négritude du disco, ou à l'homosexualité du disco. Au fond, ont brûlé des disques. C'est un auto-da-fé et au fond, l'événement a eu comme ça des très forts relents, enfin, une sorte d'expression raciste et homophobe. Et l'événement a sidéré une partie de l'Amérique et a créé comme ça une sorte d'électrochoc qui s'est répandu aussi dans les radios, dans les télés, dans les maisons de disques, qui se sont dit, bon, maintenant, ce discours, ça a été trop loin. On va revenir à des choses plus traditionnelles où on va effacer ce mot disco qui a quasiment disparu aux États-Unis alors que ça a perduré en Europe. Et ça a été le signal en fait d'une sorte de backlash, d'un retour de bâton sur cette décennie qui avait mis en valeur des chanteuses noires américaines, l'homosexualité qui était de plus en plus visibilisée, exprimée à travers des comportements, des images. Toute cette décennie d'émancipation et de libération, c'est comme si la Demolition Night avait tiré le signal d'alarme ou le sifflet de la fin du match pour dire maintenant, voilà, maintenant c'est fini. Et lorsqu'on a commencé à travailler sur l'Expo, on n'avait pas pensé qu'on pourrait tirer autant de points communs, enfin de discerner des points communs avec l'arrivée de Trump aujourd'hui, avec ce retour de bâton aussi sur vis-à-vis de toutes les libertés acquises ces dernières années à travers les différentes campagnes, prises de position envers justement la culture LGBT, le Black Lives Matter, etc. Donc les choses se répètent sous forme de cycle aux États-Unis.
Merci beaucoup Jean-Yves Leloup.
Merci.
This is going to be all over the newspapers, all over the television. All over radio, all over the city, all over the country, and everybody's gonna know disco sucks! Disco sucks! Disco sucks!
Disco sax. Voilà. La Disco Demolition Night qui a eu lieu le 12 juillet 79 à Chicago. Pour mémoire, il n'y a eu aucune poursuite lors de ces émeutes dans le stade et même l'animateur radio Steve Dahl semble minimiser ce qui s'était passé. Guy Cuevas, Dimitri From Paris, ça va être le mot de la fin, mais le disco n'est pas mort, il ressurgit partout, il n'arrête pas de revenir chez Madonna, chez Daft Punk, Juliette Armanet, Clara Luciani.
Oui, le disco a toujours influencé énormément de gens. Et puis, il y a les codes du disco qui sont encore là. On a parlé de la batterie. Voilà, les codes qui font que ça type la musique d'aujourd'hui. La house est totalement issue du disco. De la house ont été générés des centaines de sous-genres différents. Et je pense que le disco, à son origine, le côté humain du disco, puisque c'est enregistré avec des orchestres, avec des gens, c'est quelque chose qui touche d'une certaine manière les gens différemment que les musiques des 20 dernières années qui ont tendance à sortir du numérique, d'un ordinateur. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle aussi, le disco a ce côté humain réconfortant qui touche beaucoup de gens. Ça les inspire d'une part, mais aussi moi en tant que DJ depuis 30 ans, j'ai toujours joué du disco et ça fonctionne, ça fonctionne. C'est une musique qui a 50 ans, mais qui peut faire danser des jeunes de 20 ans dans une piste de danse et même dans un festival aujourd'hui, sans qu'elle soit altérée, sans qu'elle soit retravaillée, remixée. Donc c'est une musique qui touche les gens et qui continue de le faire.
Alors pour se quitter, Guy Cuevas, on va partir avec encore un de vos disques, une chanson qui a traversé le temps, qui a été enregistrée d'abord en 67 par Frankie Valli, reprise par Lauryn Hill, par les Pet Shop Boys, par Gloria Gaynor, oui. Et surtout Boys Don't Gang, Guy Cuevas.
C'est celle-là, la version du ballast. Ah,
ah, l'album Discharge, la pochette est géniale, hein, avec les garagistes torse nu, les biceps,
Still
plein de graisse de moteur.
Oui,
voilà, tout à fait. Allez, on se quitte avec Can't Take My Eyes Out of You.
Bah justement, il y a une intro cuivre.
Comme vous les aimez, un peu longue.
Oui, oui, oui.
Et violon, surtout.
Absolument. Le titre Neuf Culs. Rendre heureux les gens, ils donnent le sourire.
Voilà, fin de cette première heure spéciale disco. Merci à vous deux, Guy Cuevas. Vous êtes l'invité demain à la Philharmonie de Paris pour une conférence avec des commissaires d'expo, des DJ. Vous, bien sûr, mais il y aura aussi Céron, il y aura plusieurs tables rondes. Il suffit de s'inscrire pour y assister. C'est gratuit. Dimitri From Paris, on retrouve votre bande-son. Merci à vous. Hein.
Merci
on retrouve
à vous.
Toute votre bande-son mixée dans l'exposition. Je signale le catalogue Disco I'm Coming Out aux éditions de La Martinière sous la direction de Patrick Thévenin. Cette émission a été préparée avec Djoubaka, Jérôme Chélius à la réalisation. Merci à Elodie Maillot pour l'interview de Bob Colacello, à Jocelyn Perrotin qui était en patin à roulettes pour cette journée disco. À la console ce soir, Élise Christophe. Dans un instant, Laurent Goumard reçoit Céron, Patrick Thévenin et Didier Marouani de Space dans un côté club disco toujours. Très bonne soirée à tous.